poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Texte, musique et danse qui font poème et poème qui fait désir. Aujourd'hui, Sappho, raconté par Stéphane Bouquet.
Ma rencontre de Sappho a été quelque chose d'absolument étonnant. Parce que j'ai passé l'agrégation de grammaire, donc j'ai une formation en grec extrêmement solide, très approfondie. Et j'étais baignée de littérature et de langue grecque et aussi de la littérature française. Et évidemment, Sappho, il y a quand même beaucoup d'années que j'avais passé l'agrégation, Sappho n'était pas au programme. Et je débarque dans mon lycée de province et j'aimais les femmes déjà. Mais je n'avais pas de littérature pour moi. Il y avait très peu de choses qu'on allait chercher comme ça par hasard. Et dans mon lycée de province où j'ai été nommée à Saumur, justement la ville de Madame Dacier, il y avait une bibliothèque. Et j'ai trouvé le livre d'Alcée et de Sappho. Et je l'ai ouvert, je me doutais de ce que j'allais trouver quand même, j'avais lu des choses, mais rien que lu des choses, la thèse de Barou, enfin différentes choses. Et quand j'ai reçu ça en pleine figure, j'en ai encore le cœur qui bat à distance, tellement j'ai été bouleversée parce que j'ai eu l'impression que j'avais en vis-à-vis, face à moi, une sœur, une compagne, quelqu'un que je pouvais toucher du doigt, mais c'était comme du feu, ça me traversait complètement, c'était tellement évident, ça me semblait la vérité. Voilà, alors mon choc est toujours là, il est aussi présent qu'au premier jour.
La voix de Geneviève Pastre, c'était dans Une vie, une œuvre consacrée à Sappho sur France Culture au micro de Francesca Isidori. Stéphane Bouquet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Poète, vous aussi, traducteur souvent, danseur parfois. Un mot peut-être sur ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas s'il y a eu épiphanie pour vous, mais est-ce que vous vous souvenez de votre découverte de Sappho, des premiers vers lus ou entendus d'ailleurs ?
Non, je crois que je me souviens pas. En tout cas, ça a pas provoqué ce moment de reconnaissance. En fait, je crois que c'était plutôt. Je pense que j'ai dû lire ça dans les traductions qu'on a faites Marguerite Yourcenar dans l'anthologie de la poésie grecque il y a très très longtemps, qui était un volume de traductions qu'elle a faites, qui sont des traductions assez étranges parce qu'elle remet tout en prose et puis elle choisit des bouts, elle traduit pas tout. Enfin, mais c'est malgré cela, des très bonnes traductions.
C'est passé par là. Alors, vous lui consacrez un texte à Sappho, aux éditions de la Philharmonie de Paris, illustré par Rosaire Appel. Écrire sur elle, est-ce que c'était pour vous écrire en poète, en traducteur, en conteur? Après tout, le livre est titré, enfin, fait partie d'une collection et donc est titré Sappho raconté par Stéphane Bouquet.
Alors c'était un peu écrire en conteur parce que ça participe de cette collection qui est, je dirais pas une collection de vulgarisation, mais plutôt une collection qui cherche à faire entendre autrement un certain nombre de personnes qui ont eu part avec la création ou l'invention de la musique. Donc il y avait une dimension conteur et puis il y a sans doute oui une dimension poète, pas traducteur parce que mon grec est pas du tout aussi bon que celui de Geneviève Pastre, loin de là. Mais en poète, oui. Moi, j'ai plutôt une approche, disons, de qu'est-ce qu'elle a fait avec les mots et qu'est-ce qu'on peut en faire, nous.
Alors, pardon, excusez-moi. Alors, c'est justement une des questions qui court un peu aussi tout le long de ce texte. Hein. Nous sont parvenus aujourd'hui 264 fragments, pour être précis, et des centaines de traductions et autant d'exégèses. Hein. On a beaucoup dit de Sappho. D'ailleurs, vous n'arrêtez pas de le répéter dans le texte, comme ça, comme pour venir rythmer le texte. On a beaucoup dit, on a beaucoup dit. Tout est son contraire. Hein. On l'a fantasmé, on l'a marié, on l'a suicidé, on l'a moqué, on l'a condamné, on l'a sublimé, on l'a enlaidi aussi, parfois, on l'a dépravé, sans compter les constructions, reconstructions modernes, féministes, politiques. Pas vous, du tout, en tout cas dans ce texte-là, vous en restez vraiment à une mise en situation de Sappho à son époque, avec notamment une façon tellement visible de ne pas aborder la question de la sexualité de Sappho, qu'on se demande pourquoi.
Alors, pour une raison très simple, c'est que je pense que la poésie grecque archaïque, on ne peut pas la comprendre comme on comprendrait la poésie, disons, contemporaine ou depuis le romantisme, c'est-à-dire c'est pas un lyrisme biographique. C'est-à-dire que Sappho, elle est pas en train du tout de raconter sa vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel je tiens et que je cherche à défendre dans ce livre, c'est que la poésie grecque archaïque, c'est pas simplement des vers, dont il nous reste d'ailleurs pour le coup que des lambeaux, mais c'est une somme de choses, c'est de la musique parce que c'était forcément chanté, c'est de la danse parce que c'était en même temps forcément dansé, et puis c'est tout ce qui va autour qui est une inscription dans la vie de la cité. C'est-à-dire que la majorité, et même tous les poèmes à l'époque, étaient écrits soit pour s'inscrire dans des cultes, donc honorer les dieux de la cité, soit pour s'inscrire dans des rites, que ce soit le mariage, les banquets, ou même des rites sportifs, qui est le retour des champions des Jeux Olympiques et autres jeux qui traversaient la Grèce. Et donc, en fait, la poésie à l'époque, si on l'inscrit pas dans son contexte, qui était une sorte de célébration des familles, des cités, je crois qu'on n'y comprend rien et on peut pas du tout, en tout cas, en faire l'expression d'un ego qui raconterait ses sentiments, ses pulsions, ses désirs, etc.
C'est pourtant l'expression de cet ego, ou en tout cas l'expression de cet éros, qui a particulièrement fasciné chez elle. Fasciné ou inversement d'ailleurs, mais en tout cas en 2700 ans.
Oui. Alors en tout cas, ça nous fascine nous. Je dirais, parce que si on regarde ce que disaient par exemple les comédies attiques de Sappho, c'est-à-dire des comédies qui étaient écrites au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, on n'en fait pas du tout un personnage de lesbienne au sens sexuel du terme, parce qu'elle était vraiment lesbienne au sens géographique, mais une coureuse de femmes, une mangeuse d'hommes. Donc la vision, disons, de Sappho homosexuelle, pour le dire vite, je crois que c'est une vision qui nous fascine, nous, et qui, à mon avis, est une invention contemporaine. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que Sappho n'était pas lesbienne ou était lesbienne, je dis juste qu'on ne peut pas le savoir à partir de ses poèmes, en fait. Et que surtout, ce n'est pas comprendre ce que c'est que la poésie de cette époque, que de vouloir avoir cette lecture-là et de vouloir en déduire ça. Après, qu'on veuille comme l'a fait Joseph Pastre pour sa vie personnelle, bon, après, c'était très bien aussi, Je veux dire, moi, ma position, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle faisait, d'essayer de m'en approcher au plus proche, mais qu'on puisse en avoir d'autres usages qui sont pas les usages qu'elle avait, en tête. Ça me dérange pas non plus du tout, mais c'est autre chose. Faut juste le savoir.
Alors évidemment, cette autre chose, on va y revenir, mais vous avez évoqué le fait que, bien sûr, ces poèmes nous sont arrivés de façon extrêmement fragmentaire, tronquée, par petits bouts, des mots ou des lettres flottants, errants et égarés sur un océan de blanc, écrivez-vous, Stéphane Bouquet. Elle ne laisse que les traces somptueuses des choses. Est-ce que c'est ça aussi qui en redouble le pouvoir, la place que ces poèmes nous laissent?
Moi, je pense que ça participe de la fascination aussi de la poésie de Sappho, en tout cas de la façon dont la poésie de Sappho nous fascine, nous, modernes. Je pense qu'elle fascinait les générations bien avant nous, pour d'autres raisons. Mais il y a cette espèce de logique du fragment, cette logique du blanc, ce sentiment du manque. Et toutes ces choses-là s'inscrivent dans une idée de la poésie qui, d'une certaine manière, qu'on reconnaît, qui nous parle, qui nous émeut. Et ça participe, je crois, vraiment de la force de sa poésie aujourd'hui.
Alors Sappho, sans doute, c'est le titre que vous donnez à votre texte, Stéphane Bouquet, et vous commencez, j'allais dire comme tout le monde, par cette phrase, sur Sappho, je sais que je ne sais quasi rien. Pour autant, peut-être juste pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dans ce quasi? Qu'est-ce qui est certain ou presque certain?
Alors ce qui est presque certain, c'est qu'elle est née à Lesbos, donc une île qui est en face de la Turquie actuelle, qui à l'époque était en face d'un royaume très très riche qui était la Lydie, dont quelques générations plus tard, Crésus sera le roi de Lydie, donc Crésus, ça parle, je pense, un peu à tout le monde. Ce qui est tout à fait certain, c'est qu'elle appartenait à l'aristocratie de l'île. Ce qui est tout à fait certain, c'est qu'elle a été exilée, comme toute sa famille, au moment où une famille rivale a pris le pouvoir. Ce qui est tout à fait certain, c'est que elle défendait une certaine politique et que sa poésie défend aussi cette certaine politique qui consistait à proposer l'alliance avec ce royaume de Lydie, alors que la famille qui a pris le pouvoir était plutôt une famille qu'on pourrait dire pro-grec, c'est-à-dire plutôt tournée vers les autres cités grecques que vers le royaume de Lydie. Bon, ça, ce sont des choses tout à fait certaines. Ce qui est tout à fait certain aussi, c'est qu'elle a eu des frères, au moins trois, et qu'elle était chef de chœur. C'est-à-dire qu'elle était en charge de former un certain nombre de jeunes filles et leur apprendre les règles de la composition musicale, poétique, les règles aussi des chorégraphiques, un certain nombre de pas de danse qu'elle devait effectuer au moment relativement cérémonieux où elle devait dire les poèmes. Ça, c'est tout à fait certain.
Et qu'est-ce qui est faux ?
Alors, qu'est-ce qui est faux pour sûr que, par exemple, elle se serait suicidée par amour pour un homme qui l'aurait délaissée? Ça, c'est faux pour sûr, en fait. Et puis, il y a des choses, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, dont on peut faire l'hypothèse, mais qui ne sont toujours que des peut-être.
Des peut-être, des sans doute, quelques hypothèses qui vous plaisent plus que d'autres, d'ailleurs, Stéphane Bouquet. Vous l'avez évoqué à l'instant, un poète était une fonction sociale, en tout cas à ce moment-là, pour ce qui est de Sappho. Il est impératif de s'en souvenir si on veut avoir une chance de comprendre ce qu'elle trafiquait au juste. Ça, c'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce qu'elle trafiquait au juste ?
Eh bien, en fait, elle écrivait des poèmes qui avaient comme but de remplir un certain nombre de fonctions sociales et de participer, en fait, me semble-t-il, enfin, c'est évidemment une hypothèse puisque je peux amener des arguments mais j'ai pas de preuves définitives, mais de participer à la, non pas à la fondation, mais à une façon de faire en sorte que la cité et que les familles dans la cité non pas vivent mieux, mais en tout cas qu'il y ait une sorte de, oui, de, le mot m'échappe là, mais de renforcement d'une certaine manière.
Alors tout ça, ça passe alors par une mise en situation. Hein. Donc alors ça passe évidemment par la musique. Et si la musique passe par l'instrument, par le barbitos, parfois par le pectis, elle passe aussi par le cœur des jeunes filles, par le bruit des pas de danse, par le rythme de la langue, le rythme de la fameuse strophe saphique sur laquelle vous vous attardez longuement. De quoi est-elle faite alors on va peut-être pas rentrer dans les détails hyper techniques parce que ça n'est pas si simple, mais de quoi est-elle faite cette fameuse strophe, parce que vous expliquez bien comment Sappho goûte un rythme particulier.
Alors la strophe saphique, c'est une strophe qui est constituée donc de quatre vers. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est... Mais en fait, ce qui est intéressant, je crois, il y a deux choses à retenir, c'est que c'est quatre vers donc d'un certain nombre de syllabes, mais il y a un jeu sur la longueur des voyelles. Donc il y a un jeu très précis. Un peu technique qui fait que des voyelles courtes vont succéder à des voyelles longues et que parfois, selon la position dans les vers, les voyelles peuvent être indifféremment courtes ou longues. Donc ça, c'est une première, disons, un premier trait typique de la strophe saphique. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ces strophes n'étaient probablement pas dites uniquement sur des jeux de longueur des voyelles, mais aussi sur des jeux de hauteur des voyelles. C'est-à-dire qu'une voyelle brève pouvait être une voyelle qui était prononcée de manière plus aiguë qu'une voyelle longue. Donc la longueur n'était pas forcément une longueur, disons, dans le temps, mais ça pouvait se traduire par une hauteur dans la gamme.
C'est ça, hein, ce que vous dites quand vous écrivez, l'effet devait être un peu comme si la voix suivait les méandres interminables d'un grand 8, ralentissant dans les montées, accélérant dans les descentes, devenant comme un cri avant de s'étaler de nouveau dans les graves. Et vous parlez aussi de ce rythme un peu essoufflé, essoufflant. Voilà comment l'helléniste Philippe Brunet reconstitue la musique de la langue.
Poiché l'otrona atanata prodita, pae dios dolloplo che lissomaise, me massai si medoniai si damna potnia tumon, alla tui delt ae potacate rota, tas emas audas aioi sapeloi, Eclues patros de domon lipois accrucion eltes. Arm ipas deuxae sacaloide sagon. Oces trutoi...
Alors, il faut vraiment croire sur parole. C'est un extrait de l'hymne Aphrodite, hein, tel que Brunet la reconstitue en grec ancien. C'était d'ailleurs toujours au micro de Francesca Isidori dans Une vie, une œuvre sur France Culture. Donc maintenant que vous l'entendez là à l'oreille, Stéphane Bouquet, qu'est-ce qu'on entend de la langue, hein, à proprement parler, ou du rythme, ou de la musique de Sappho dans ce qu'on est en train d'écouter.
Alors, je crois qu'on entend, après, il faut dire que toute reconstitution est une hypothèse.
Bien sûr.
Et que la reconstitution, à la fois qu'il propose...
Enfin, extrêmement documentée, par ailleurs.
Extrêmement documentée, mais des hypothèses néanmoins. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la preuve absolue. Ce qu'on entend, je crois, c'est vraiment cet effet de vague, en fait. Cet effet presque hypnotique, me semble-t-il. À la fois qu'il frise la litanie, on sent bien qu'il s'agit moins de véhiculer un sens que de créer une atmosphère. Et je crois que ça, c'est un élément vraiment important de la poésie saphique et de la poésie grecque archaïque en général. C'est-à-dire qu'il s'agit pas forcément de véhiculer un sens très précisément, mais de mettre les auditeurs dans un état, en fait. Et cet état, c'est aussi un état de communication et un état de communion. Je parlais tout à l'heure de ce sentiment de communion dans la cité, mais c'est aussi un sentiment de communion avec les dieux ou avec les divinités. Donc c'est la façon de créer un espace auquel la poésie participe, auquel ce sentiment aussi, j'ai envie de dire, ce qu'on entend bien dans la voix de Philippe Brunet, de vague comme ça, qui peut-être était encore plus excessif que ce qu'il propose. Et ce sentiment-là, il faut penser que, évidemment, c'était accompagné par les danseuses, les danseurs, par la musique, beaucoup de musique percussive. Il y avait de la musique à cordes, c'était plutôt la spécialité de Sappho, mais il y avait beaucoup de musique percussive. Et puis aussi des parfums, des odeurs, de l'encens, etc. Donc c'était une sorte d'événement total des sens. Et ce qu'on peut-être essayer, avec un certain nombre de preuves, de reconstituer, c'est le sentiment que c'est quelque chose, pas forcément qui était de l'ordre de la transe, mais qui en tout cas déplaçait les états naturels de conscience vers autre chose.
Vous utilisez le terme grec de coma d'ailleurs dans le...
Oui, le verbe, c'est-à-dire qu'il y a ce mot de coma qu'on trouve dans un poème de Sappho, et sans doute il est dans plusieurs, mais comme on en a beaucoup perdu. Et le coma, chez nous, c'est quelque chose de plutôt tragique, d'une certaine façon, puisque c'est le sommeil de la maladie. Et à l'époque grecque archaïque, le coma, c'est un sommeil qui n'est pas du tout un sommeil tragique, qui est un sommeil, au contraire... un amollissement qui est aussi un amollissement des frontières du soi pour rejoindre autre chose, pour faire une expérience que j'ai pas envie d'appeler mystique parce que là c'est un mot qui serait trop religieux, trop teinté de christianisme, mais qui est quand même une expérience de sortie de soi pour rejoindre la communauté.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique Laurie Vachon, à la réalisation François Connac, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, et avec nous Stéphane Bouquet, qui raconte Sappho aux éditions de la Philharmonie de Paris. Et puisqu'il est question d'harmonie, on écoute Sappho, mis en grec moderne, et mis en musique et en voix, par Angélique Ionatos.
Κόλληστος εσπέρε πάντα φέρον όσα φαίνουν εις εσκέδας άβος φέρεις όιν φέρεις έγα φέρεις άπη μάτερη. Έσπερε πάντα φέρον όσα φαινολείς εσκέδασα ως φέρεις όιν φέρεις έγα φέρεις άπη μάτερη.
Stéphane Bouquet, quel Sappho est-ce que vous entendez dans cette voix, dans celle d'Angélique Ionatos, que vous avez souhaité faire entendre, par ailleurs, la voix d'Angélique Ionatos?
Alors, c'est en tout cas, j'entends j'entends quelque chose de l'ordre de la mélancolie, une espèce de poids en fait, un poids qui serait dans la langue en fait, et c'est ce qui me touche au fond dans la manière dont elle interprète Sappho, c'est qu'elle y met une sorte de lourdeur, lourdeur de la voix, lourdeur du corps, lourdeur de la tristesse en fait.
Alors on écoute une toute autre façon de le dire, alors là pour le coup dans une traduction française, à nouveau Geneviève Pastre.
Dans ce poème, j'en lis la traduction, donc la plus ancienne que j'ai sous les yeux, ça serait intéressant que nous comparions. Elle parle « Celui-là me paraît être l'égal des dieux, l'homme qui, assis en face de toi, de tout près, écoute ta voix si douce. Et ce rire enchanteur qui, je le jure, a fait fondre mon cœur dans ma poitrine. Car dès que je t'aperçois un instant, il ne m'est plus possible d'articuler une parole. Mais ma langue se brise et sous ma peau, soudain, se glisse un feu subtil. Mes yeux sont sans regard, mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle de mon corps, un frisson me saisit toute. Je deviens plus verte que l'herbe et peu s'en faut, je me sens mourir. »
Alors elle, en revanche, Geneviève Pastre le dit avec ce qu'on devine être un immense sourire dans sa façon de le dire. Donc là, c'est le célèbre fragment 31. On touche là, Stéphane Bouquet, écrivez-vous, avec ce fragment-là, à l'une des puissances poétiques propres de Sappho, c'est-à-dire ?
C'est que je pense que ce qui fait sa force, même si elle ne dit pas, elle raconte pas forcément sa vie, même si elle ne dit pas ses affects, ses émotions, ce qui fait sa force quand même, c'est qu'elle s'inscrit, Sappho, dans une puissante écriture du désir, et qu'elle est capable de rendre le monde dans toute sa vibration existentielle, mais complexe, c'est-à-dire que il y a tous les sens qui sont convoqués d'une certaine manière dans ces poèmes, à la fois évidemment la vue, mais beaucoup le toucher, mais les odeurs, mais l'espèce de crissement que pourraient faire les matières, mais
le vêtement, beaucoup
beaucoup de vêtements, beaucoup d'étoffes, beaucoup de parfums, beaucoup de couronnes de fleurs. Donc le monde existe avec un poids très touchant en fait, à la fois, et très exaltant. Et je pense que si elle a autant retenu les anciens, parce que c'était ce qu'on pourrait appeler vraiment, on appelait Sappho la dixième muse, donc elle avait quand même une notoriété qui traversait tout le monde grec. Je crois que c'est qu'elle a été capable de donner une espèce de vigueur à l'expression du désir et à l'expression du monde dans toute sa complexité et son existence matérielle.
Alors c'est ça, parce que c'est quand on progresse dans votre texte, Stéphane Bouquet, on voit bien que c'est là que vous finissez par arriver, et qu'au fond tout le texte est écrit pour en arriver à cette question du désir, presque du poème comme une promesse de désir, qui est aussi ce qui vous occupe vous-même en tant que poète. C'est là tout l'enjeu pour vous du poème saphique, ou en tout cas du poème de Sappho, le poème comme opérateur de transformation, c'est-à-dire le poème comme une promesse de désir.
En tout cas, c'est un enjeu qui me semble pouvoir rendre contemporain les poèmes de Sappho. Pour sa part, elle a par exemple écrit beaucoup d'épithalames, qui sont des poèmes de mariage, qui sont des poèmes qui sont destinés à vanter les beautés des jeunes filles pour expliquer au fond que les maris font de beaux mariages. Ou qu'en tout cas les pères des maris, puisque je pense qu'on demandait pas trop leur avis non plus aux maris, avaient bien choisi la jeune épousée. Donc il y a une sorte de valeur pour la société qui est de célébrer le mariage et de célébrer les unions entre les familles. Mais ça, elle le fait avec une puissance d'expression du désir qui, effectivement, pour moi, la rend tout à fait contemporaine, en tout cas me rend très facile de la lire de manière contemporaine et de sentir vibrer dans tous les sens le monde qu'elle met en scène.
Est-ce que vous voulez bien nous lire, choisir peut-être quelques fragments et extraits de votre livre ?
Alors, par exemple, le fragment 71, « Un chant doux, voix de miel, chante mouillée de rosée ». Ou le 97, les étincelles ivoires de l'épingle. Ou encore le 92, robe, de crocus, robe de pourpre, manteau persan, couronne de phrygie, pourpre. Et puis peut-être un dernier qui est un peu plus long, un des rares poèmes qu'on ait un peu dans sa longueur. « Depuis la crête, viens ici, vers moi, vers ce temple saint, où se trouve ton bois si gracieux de pommiers et l'encens fumant sur les autels. Et ici, l'eau fraîche bruit à travers les branches des pommiers. Tout le lieu est à l'ombre des roses et un sommeil profond goûte du feuillage qui tremble, brille. » Et je crois qu'on, dans tous ces fragments, on entend, en fait, comment le monde existe dans sa densité. Tremble, brille, par exemple, c'est un mot qu'elle invente, un verbe qu'elle invente qui lui permet de rejoindre, faire se rejoindre deux sensations, comme si une sensation c'était jamais assez, mais que deux c'était quand même toujours mieux. De la même façon, là, dans le dernier poème que j'ai lu, on entend « viens ici », et puis « ici, l'eau fraîche », et il y a une sorte d'utilisation des déictiques comme « ici » ou « maintenant » chez elle, qui ont comme but vraiment de rendre absolument présent le poème au monde et le monde au poème. Et que c'est dans cette double présence que quelque chose se réalise de la communion qui est, je crois, la tâche du poème.
La communion, le désir, vous évoquez d'ailleurs à la toute fin du texte ces deux mots pour dire désir qui sont hyméros et pothos. Lequel de ces deux finalement, enfin je veux dire vers où penche Sapho, lequel de ces deux alors, désirs sont promis par les poèmes de Sapho?
Je pense qu'elle penche, il faut dire, hyméros, c'est une façon de désirer au temps présent. C'est je désire la chose qui est là et je la désire vivement. Et pothos, c'est aussi je désire, mais je désire la chose qui n'est plus là. C'est pas vraiment de la nostalgie, c'est pas de la mélancolie, c'est vraiment je désire la chose au temps présent, avec violence, avec force, avec vigueur, mais cette chose n'est plus là. Et si on regarde, si on fait juste une comparaison, on s'aperçoit que dans les poèmes de Sapho, c'est les mots pothos qui dominent, en fait, pothos ou le verbe. Et en fait, c'est ce désir-là, je crois, qui est très très fort pour elle et qui est au fond le désir le plus violent toujours en poésie. C'est le désir de l'élégie, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est le désir de ce qui a été et qui nous rend amplement vivant par le fait que c'est plus accessible et qu'on va pouvoir peut-être par le poème, par la force du poème, par sa puissance, le rendre revivant.
C'est exactement ce que vous tâchez de faire vous aussi, Stéphane Bouquet.
Alors, si vous essayez de dire que ma lecture de Sapho est orientée, je le reconnais.
Sapho a paru aux éditions de la Philharmonie de Paris. Merci Stéphane Bouquet, c'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter et partager sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Poésie et ainsi de suite s'écoute en partenariat avec La Croix l'Hebdo et comme chaque semaine, Un poème pour la route vous attend, kiosque et dans vos oreilles. Ce week-end, Sakura d'Isabelle Girodias, paru aux éditions L'Enfance des Arbres. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.